Chapitre 4, les deux joyeuses. Messieurs de Joyeuse, comme nous l'avons vu, s'étaient dérobés pendant toute cette scène par les derrières de l'hôtel de ville, et laissant aux équipages du roi leurs laquais qui les attendaient avec des chevaux, ils marchaient côte à côte dans les rues de ce quartier populeux qui, ce jour-là, était déserte, tant la place de Grève avait été vorace de spectateurs. Une fois dehors, ils avaient marché, se tenant par le bras, mais sans s'adresser la parole. Henri, si joyeux naguère, était préoccupé et presque sombre. Anne semblait inquiet et comme embarrassée de ce silence de son frère. Ce fut lui qui rompit le premier le silence. « Eh bien, Henri, demanda-t-il, où me conduis-tu ? » « Je ne vous conduis pas, mon frère, je marche devant moi, » répondit Henri comme s'il se réveillait en sursaut. « Désirez-vous aller quelque part, mon frère ? Et toi ?» Henri sourit tristement. « Oh, moi, dit-il, peu m'importe où je vais. « Et tu vas cependant quelque part, chaque soir, » dit Anne, « car chaque soir tu sors à la même heure pour ne rentrer qu'assez avant dans la nuit et parfois pour ne pas rentrer du tout. » « Me questionnez-vous, mon frère ? » demanda Henri, avec une charmante douceur mêlée d'un certain respect pour son aîné. « Moi, te questionner, » dit Anne, « Dieu m'en préserve, les secrets sont à ceux qui les gardent. »« Quand vous le désirerez, mon frère, » répliqua Henri, « je n'aurai pas de secret pour vous, vous le savez bien. »« Tu n'auras pas de secret pour moi, Henri ?» « Jamais, mon frère, n'êtes-vous pas à la fois mon seigneur et mon ami ?» Dame, je pensais que tu en avais avec moi, qui ne suis qu'un pauvre laïc. Je pensais que tu avais notre savant frère, ce pilier de théologie, ce flambeau de la religion, ce docte architecte des cas de conscience de la cour, qui sera cardinal un jour, que tu te confiais à lui, et que tu trouvais en lui à la fois confession, absolution et, qui sait, conseil, car dans notre famille, ajouta Anne en riant, on est bon à tout, tu le sais, témoin notre très cher père. Henri du Bouchage saisit la main de son frère et la lui serra affectueusement. « Vous êtes pour moi plus que directeur, plus que confesseur, plus que père, mon cher Anne, dit-il, je vous répète que vous êtes mon ami. » « Alors, mon ami, pourquoi, de gai que tu étais, t'ai-je vu peu à peu devenir triste, et pourquoi, au lieu de sortir le jour, ne sors-tu plus maintenant que la nuit ?»« Mon frère, je ne suis pas triste, » répondit Henri en souriant. « Et qu'es-tu donc ? Je suis amoureux. »« Bon, et cette préoccupation vient de ce que je pense sans cesse à mon amour. » « Et tu soupires en me disant cela ?» Oui. Et tu soupires, toi, Henri, comte du Bouchage, toi, le frère de Joyeuse, toi, que les mauvaises langues appellent le troisième roi de France. Tu sais que monsieur de Guise est le second, si toutefois ce n'est pas le premier. Toi qui es riche, toi qui es beau, toi qui seras pair de France comme moi et duc comme moi à la première occasion que j'en trouverai. Tu es amoureux, tu penses et tu soupires, toi qui as pris pour devise hilaritaire, joyeusement. Mon cher Anne, tous ces dons du passé ou toutes ces promesses de l'avenir n'ont jamais compté pour moi au rang des choses qui devaient faire mon bonheur. Je n'ai point d'ambition, c'est-à-dire que tu n'en as plus, ou du moins je ne poursuis pas les choses dont vous parlez. En ce moment peut-être, mais plus tard, tu y reviendras. Non, jamais, mon frère, je ne désire rien, je ne veux rien. Eh, tu as tort, mon frère, quand on s'appelle Joyeuse, c'est-à-dire un des plus beaux noms de France, quand on a son frère favori du roi, on désire tout, on veut tout, et l'on a tout. Henri baissa mélancoliquement et secoua sa tête blonde. « Voyons, dit Anne, nous voici bien seuls, bien perdus. Le diable m'emporte. Nous avons passé l'eau, si bien que nous voilà sur le pont de la Tournelle, et cela sans nous en être aperçus. Je ne crois pas que sur cette grève isolée, par cette bise froide, près de cette eau verte, personne vienne nous écouter. As-tu quelque chose de sérieux à me dire, Henri ? Rien, rien, sinon que je suis amoureux, et vous le savez déjà, mon frère, puisque tout à l'heure je vous l'ai avoué. Mais que diable, ce n'est point sérieux, cela, dit Anne en frappant du pied. Moi aussi, par le pape, je suis amoureux. Pas comme moi, mon frère. Moi aussi, je pense quelquefois à ma maîtresse. Oui, mais pas toujours. Moi aussi, j'ai des contrariétés, des chagrins même. Oui, mais vous avez aussi des joies. On exige de moi de grands mystères. On exige, vous avez dit, on exige, mon frère, si votre maîtresse exige, elle est à vous. Mais sans doute qu'elle est à moi, c'est-à-dire à moi et à monsieur de Mayenne, car, confidence pour confidence, Henri, j'ai justement la maîtresse de ce paillard de Mayenne, une fille, folle de moi, qui quitterait Mayenne à l'instant même, si elle n'avait peur que Mayenne ne la tuât. C'est son habitude de tuer les femmes, tu sais. Et puis, je déteste ces guises, et cela m'amuse de m'amuser aux dépens de l'un d'eux. Eh bien, je te le dis, je te le répète, j'ai parfois des contraintes, des querelles, mais je n'en deviens pas sombre comme un chartreux. Pour cela, je n'ai pas les yeux gros, je continue de rire, sinon toujours, au moins de temps en temps. Voyons, dis-moi, qui tu aimes, Henri? Ta maîtresse est-elle belle au moins? Hélas, mon frère, ce n'est point ma maîtresse. Est-elle belle? Ah, trop belle. Son nom? Je ne sais pas. Allons donc. Sur l'honneur. Mon ami, je commence à croire que c'est plus dangereux encore que je ne pensais. Ce n'est point de la tristesse par le pape, c'est de la folie. Elle ne m'a parlé qu'une seule fois, ou plutôt, elle n'a parlé qu'une seule fois devant moi, et depuis ce temps, je n'ai pas même entendu le son de sa voix. Et tu ne t'es pas informé? À qui? Et comment à qui? Au voisin. Elle habite une maison à elle seule, et personne ne la connaît. Ah ça, mais est-ce donc une ombre? C'est une femme, grande et belle comme une nymphe, sérieuse et grave comme l'ange Gabriel. Comment l'as-tu connue? Où l'as-tu rencontrée? Un jour, je poursuivais une jeune fille au carrefour de l'Égyptienne. J'entrais dans le petit jardin qui attient à l'église. Il y a là un banc sous des arbres. Êtes-vous jamais entré dans ce jardin, mon frère? Jamais. N'importe, continue. Il y a là un banc sous des arbres. Après. L'ombre commençait à s'épaissir. Je perdis de vue la jeune fille et, en la cherchant, j'arrivai à ce banc. Va, va, j'écoute. Je venais d'entrevoir un vêtement de femme de ce côté. J'étendis les mains. Pardon, monsieur, me dit tout à coup la voix d'un homme que je n'avais pas aperçu. Pardon. Et la main de cet homme m'écarta doucement, mais avec fermeté. Il osa te toucher, joyeuse. Écoute, cet homme avait le visage caché dans une espèce de froc, je le pris pour un religieux, et puis il m'imposa par le ton affectueux et poli de son avertissement, car en même temps qu'il me parlait, il me désignait du doigt à 10 pas une femme dont le vêtement blanc m'avait attiré de ce côté et qui venait de s'agenouiller devant ce banc de pierre comme si c'eût été un autel. Je m'arrêtai, mon frère. C'est vers le commencement de septembre que cette aventure m'arriva. L'air était tiède, les violettes et les roses que font pousser les fidèles sur les tombes de l'enclos m'envoyaient leur délicat parfum. La lune déchirait un nuage blanchâtre derrière le clocheton de l'église et les vitraux commençaient à s'argenter à leur fête, tandis qu'ils se doraient en bas du reflet des cierges allumés. Mon ami, soit majesté du lieu, soit dignité personnelle, cette femme à genoux resplendissait pour moi dans les ténèbres comme une statue de marbre, et comme si elle eût été de marbre réellement. Elle m'imprima je ne sais quel respect qui me fit froid au cœur. Je la regardai avidement. Elle se courba sur le banc, l'enveloppa de ses deux bras, y colla ses lèvres, et aussitôt je vis ses épaules onduler sous l'effort de ses soupirs et de ses sanglots. Ah, jamais vous n'avez ouï de tels accents, mon frère, jamais fer acéré n'a déchiré si douloureusement un cœur. Et tout en pleurant, elle baisait la pierre avec une ivresse qui m'a perdu. Ses larmes m'ont attendri, ses baisers m'ont rendu fou. C'est elle, par le pape, qui était folle, dit Joyeuse. Est-ce qu'on baise une pierre ainsi? Est-ce que l'on sanglote ainsi pour rien? Oh, c'était une grande douleur qui la faisait sangloter. C'était un profond amour qui lui faisait baiser cette pierre. Seulement, qui aimait-elle? Qui pleurait-elle? Pour qui priait-elle? Je ne sais. Mais cet homme, tu ne l'as pas questionné? Si fait. Et que t'a-t-il répondu? Qu'elle avait perdu son mari. Est-ce qu'on pleure un mari de cette façon-là? Dit Joyeuse. Voilà, pardieu, une belle réponse. Et tu t'en es contentée? Et il l'a bien fallu, puisqu'il n'a pas voulu m'en faire d'autre. Mais cet homme lui-même, quel est-il? Une sorte de serviteur qui habite avec elle. C'est son nom. Il a refusé de me le dire. Mais jeune, vieux, il peut avoir de 28 à 30 ans. Voyons, après, elle n'a pas resté toute la nuit à prier et à pleurer, n'est-ce pas? Non, quand elle eut fini de pleurer, c'est-à-dire quand elle eut épuisé ses larmes, quand elle eut usé ses lèvres sur le banc, elle se leva, mon frère. Il y avait dans cette femme un tel mystère de tristesse qu'au lieu de m'avancer vers elle comme j'eusse fait pour toute autre femme, je me reculais. Ce fut alors elle qui vint à moi, ou plutôt de mon côté, car moi, elle ne me voyait même pas. Alors un rayon de lune frappa son visage, et son visage m'apparut illuminé, splendide. Il avait repris sa morne sévérité, plus une contraction, plus un tressaillement, plus de pleurs, seulement le sillon humide qu'ils avaient tracé. Ses yeux seuls brillaient encore, et sa bouche s'entrouvait doucement, pour respirer la vie qui un instant avait paru prête à l'abandonner. Elle fit quelques pas avec une molle langueur, et pareille à ceux qui marchent en rêve. L'homme alors courut à elle et la guida, car elle semblait avoir oublié qu'elle marchait sur la terre. Oh, mon frère, quelle effrayante beauté, quelle surhumaine puissance! Je n'ai jamais rien vu qui lui ressemblât sur la terre. Quelquefois seulement dans mes rêves, quand le ciel s'ouvrait, il en était descendu des visions pareilles à cette réalité. Après, Henri, après, demanda Anne, prenant malgré lui intérêt à ce récit, dont il avait d'abord une intention de rire. Oh, voilà qui est bientôt fini, mon frère. Son serviteur lui dit quelques mots tout bas, et alors elle baissa son voile. Il lui disait que j'étais là sans doute, mais elle ne regarda même pas de mon côté. Elle baissa son voile et je ne la vis plus, mon frère. Il me sembla que le ciel venait de s'obscurcir et que ce n'était plus une créature vivante, mais une ombre échappée à ses tombeaux qui, parmi les hautes herbes, glissait silencieusement devant moi. Elle sortit de l'enclos, je la suivis. De temps en temps, l'homme se retournait et pouvait me voir, car je ne me cachais pas, tout étourdi que je fusse. Que veux-tu? J'avais encore les anciennes habitudes vulgaires dans l'esprit, l'ancien levain grossier dans le cœur. Que veux-tu dire, Henri? Demanda Anne. Je ne comprends pas. Le jeune homme sourit. Je veux dire, mon frère, reprit-il, que ma jeunesse a été bruyante et que j'ai cru aimer souvent, et que toutes les femmes pour moi, jusqu'à ce moment, ont été des femmes à qui je pouvais offrir mon amour. « Oh, quelle est donc celle-là ? » fit Joyeuse, en essayant de reprendre sa gaieté quelque peu altérée, malgré lui, par la confidence de son frère. « Prends garde, Henri, tu dis vague, ce n'est donc pas une femme de chair et d'os, celle-là ? » « Mon frère, dit le jeune homme en enfermant la main de Joyeuse dans une fiévreuse étreinte, mon frère, dit-il, si bas que son souffle arrivait à peine à l'oreille de son aîné, aussi vrai que Dieu m'entend, je ne sais pas si c'est une créature de ce monde. « Par le pape, dit-il, tu me fais peur, et si un Joyeuse pouvait jamais avoir peur. » Et puis, essayant de reprendre sa gaieté, « Mais enfin, dit-il, toujours est-il, qu'elle marche, qu'elle pleure, et qu'elle donne très bien des baisers, toi-même me l'as dit, et c'est, ce me semble, d'un assez bon augure cela, cher ami, mais ce n'est pas tout, voyons, après, après. » Mais après, il y a peu de choses, je la suivis donc, elle n'essaya point de se dérober à moi, de changer de chemin, de faire fausse route, elle ne semblait même point songer à cela. « Eh bien, où demeure-t-elle ? du côté de la Bastille, dans la rue de Lesdiguières. À sa porte, son compagnon se retourna et me vit. Tu lui fis alors quelques signes pour lui donner à entendre que tu désirais lui parler. Je n'osais pas. C'est ridicule ce que je vais te dire, mais le serviteur m'imposait presque autant que la maîtresse. N'importe, tu entras dans la maison. Non, mon frère. En vérité, Henri, j'ai bien envie de te renier pour un joyeuse, mais au moins tu revins le lendemain. Oui, mais inutilement, inutilement à la Gypecienne, inutilement à la rue de Lesdiguières. Elle avait disparu, comme une ombre qui se serait envolée. Mais enfin, tu t'informas. La rue a peu d'habitants, nul ne put me satisfaire. Je guettai l'homme pour le questionner, il ne me reparut pas plus que la femme. Cependant, une lumière que je voyais briller le soir à travers les jalousies me consolait en m'indiquant qu'elle était toujours là. J'usais de 100 moyens pour pénétrer dans la maison. Lettres, messages, fleurs, présents, tout échoua. Un soir, la lumière disparut à son tour et ne reparut plus. La dame, fatiguée de mes poursuites sans doute, avait quitté la rue de Lesdiguières. Nul ne savait sa nouvelle demeure. Cependant, tu l'as retrouvée, cette belle sauvage. Le hasard l'a permis. Je suis injuste, mon frère. C'est la Providence qui ne veut pas que l'on traîne la vie. Écoutez, en vérité, c'est étrange. Je passais dans la rue de Bussy, il y a 15 jours à minuit. Vous savez, mon frère, que les ordonnances pour le feu sont sévèrement exécutées. Eh bien, non seulement je vis du feu aux vitres d'une maison, mais encore un incendie véritable qui éclatait au deuxième étage. Je frappai vigoureusement à la porte. Un homme parut à la fenêtre. Vous avez le feu chez vous, lui criai-je. Silence, par pitié, me dit-il, silence, je suis occupé à l'éteindre. Voulez-vous que j'appelle le guet? Oh, non, non, au nom du ciel, n'appelez personne. Mais cependant, si l'on peut vous aider. Le voulez-vous? Alors venez, et vous me rendrez un service dont je vous serai reconnaissant toute ma vie. Et comment voulez-vous que je vienne? Voici la clé de la porte. Et il me jeta la clé par la fenêtre. Je montai rapidement les escaliers, et j'entrai dans la chambre, théâtre de l'incendie. C'était le plancher qui brûlait. J'étais dans le laboratoire d'un chimiste. En faisant je ne sais quelle expérience, une liqueur inflammable s'était répandue à terre, de là l'incendie. Quand j'entrai, il était déjà maître du feu, ce qui fit que je pus le regarder. C'était un homme de 28 à 30 ans, du moins il me parut avoir cet âge. Une effroyable cicatrice lui labourait la moitié de la face, une autre lui sillonnait le crâne, sa barbe touffue cachait le reste de son visage. Je vous remercie, monsieur, mais vous le voyez, tout est fini maintenant. Si vous êtes aussi galant homme que vous en avez l'air, ayez la bonté de vous retirer, car ma maîtresse pourrait entrer d'un moment à l'autre, et elle s'irriterait en voyant à cette heure un étranger chez moi, ou plutôt chez elle. Le son de cette voix me frappa d'inertie et presque d'épouvante. J'ouvris la bouche pour lui crier. Vous êtes l'homme de la Gypecienne, l'homme de la rue de Lesdiguières, l'homme de la dame inconnue. Car vous vous rappelez, mon frère, qu'il était couvert d'un froc, que je n'avais pas vu son visage, que j'avais entendu sa voix seulement. J'allais donc dire cela, l'interroger, le supplier, quand tout à coup une porte s'ouvrit et une femme entra. Et qu'y a-t-il donc, Rémi? Demanda-t-elle en s'arrêtant majestueusement sur le seuil de la porte. Et pourquoi ce bruit? Oh, mon frère, c'était elle. Ah, plus belle encore au feu mourant de l'incendie qu'elle ne m'était apparue au rayon de la lune. C'était elle, c'était cette femme dont le souvenir incessant me rongeait le cœur. Au cri que je poussai, le serviteur me regarda plus attentivement encore. Merci, monsieur, me dit-il. Encore une fois, merci, mais vous le voyez, le feu est éteint. Sortez, je vous en supplie, sortez. Mon ami, lui dis-je, vous me congédiez bien durement. Madame, dit le serviteur, c'est lui. Qui, lui? Demanda-t-elle. Ce jeune cavalier que nous avons rencontré dans le jardin de la Gypecienne et qui nous a suivis rue de Lesdiguières. Elle arrêta alors son regard sur moi. Et à ce regard, je compris qu'elle me voyait pour la première fois. Monsieur, dit-elle, par grâce, éloignez-vous. J'hésitais, je voulais parler, prier, mais les paroles manquaient à mes lèvres. Je restais immobile et muet, occupé à la regarder. Prenez garde, monsieur, dit le serviteur, avec plus de tristesse que de sévérité. Prenez garde, vous forceriez, madame, à fuir une seconde fois. Oh, qu'à Dieu ne plaise, répondis-je en m'inclinant, mais, madame, je ne vous offense point, cependant. Elle ne me répondit point. Aussi insensible, aussi muette, aussi glacée que si elle ne m'eût point entendue, elle se retourna et je la vis disparaître graduellement dans l'ombre, descendant les marches d'un escalier sur lequel son pas ne retentissait pas plus que ne lui fait le pas d'un fantôme. Et voilà tout, demanda Joyeuse. Voilà tout. Alors le serviteur me conduisit jusqu'à la porte en me disant « Oubliez, monsieur, au nom de Jésus et de la Vierge Marie, je vous en supplie, oubliez !» Je m'enfuis, éperdu, égaré, stupide, serrant ma tête entre mes deux mains et me demandant si je ne devenais pas fou. Depuis, je vais chaque soir dans cette rue et voilà pourquoi, en sortant de l'hôtel de ville, mes pas se sont dirigés tout naturellement de ce côté. Chaque soir, disais-je, je vais dans cette rue, je me cache à l'angle d'une maison qui est en face de la sienne, sous un petit balcon dont l'ombre m'enveloppe entièrement. Une fois sur 10, je vois passer de la lumière dans la chambre qu'elle habite. C'est là ma vie, c'est là mon bonheur. Quel bonheur ! S'écria Joyeuse. Hélas, je le perds si j'en désire un autre. Mais si tu te perds toi-même avec cette résignation... « Mon frère, dit Henri avec un triste sourire, que voulez-vous? Je me trouve heureux ainsi. »« C'est impossible !»« Que veux-tu? Le bonheur est relatif. Je sais qu'elle est là, qu'elle vit là, qu'elle respire là. Je la vois à travers la muraille, ou plutôt, il me semble la voir. Si elle quittait cette maison, si je passais encore 15 jours comme ceux que je passais quand elle m'eût perdu... Ah, mon frère, je deviendrai fou ou me ferai moine. Ah, non, pas, mordieu, il y a déjà assez bien d'un fou ou d'un moine dans la famille. Restons-en là, maintenant, mon cher ami. Oh, pas d'observation, Juan, pas de raillerie. Les observations seraient inutiles, les railleries ne feraient rien. Qui te parle d'observation et de raillerie? À la bonne heure. Mais laisse-moi te dire une chose. Laquelle? C'est que tu t'y es pris comme un franc écolier. Je n'ai fait ni combinaison ni calcul, je ne m'y suis pas pris, je me suis abandonné à quelque chose de plus fort que moi. Quand un courant vous emporte, mieux vaut suivre le courant que de lutter contre lui. Et s'il conduit à quelque abîme, il faut s'y engloutir, mon frère. C'est ton avis? Oui. Ah, ce n'est pas le mien, et à ta place... Qu'eussiez-vous fait, Anne? Assez certainement pour savoir son nom, son âge, et à ta place. Anne, Anne, vous ne la connaissez pas. Non, mais je te connais. Comment, Henri? Vous aviez 50 000 écus que je vous ai donnés sur les 100 000 dont le roi m'a fait cadeau à sa fête. Ils sont encore dans mon coffre, Anne. Pas un ne manque. Oh, mordieu, tant pis. S'ils n'étaient pas dans votre coffre, la femme serait dans votre alcôve. Oh, mon frère, il n'y a pas de « oh, mon frère ». Un serviteur ordinaire se vend pour 10 écus, un bon pour 100, un excellent pour 1000, un merveilleux pour 3000. Voyons maintenant, supposons le phénix des serviteurs, rêvons le dieu de la fidélité, et moyennant 20 000 écus, par le pape, il sera à vous. Donc il vous restait 130 000, pour payer le phénix des femmes livré par le phénix des serviteurs. Henri, mon ami, vous êtes un niais. Anne, dit Henri en soupirant, il y a des gens qui ne se vendent pas. Il y a des cœurs qu'un roi même n'est pas assez riche pour acheter. Joyeuse se calma. Eh bien, je l'admets, dit-il, mais il n'en est pas qui ne se donne. À la bonne heure. Eh bien, qu'avez-vous fait pour que le cœur de cette belle insensible se donnât à vous? J'ai la conviction, Anne, d'avoir fait tout ce que je pouvais faire. Allons donc, comte du Bouchage, vous êtes fou. Vous voyez une femme triste, enfermée, gémissante, et vous vous faites plus triste, plus reclus, plus gémissant, c'est-à-dire plus assommant qu'elle-même. En vérité, vous parliez des façons vulgaires de l'amour, et vous êtes banal comme un quartenier. Elle est seule, faites-lui compagnie. Elle est triste, soyez gaie. Elle regrette, consolez-la et remplacez. Impossible, mon frère. As-tu essayé? Pourquoi faire? Dame, ne fût-ce que pour essayer. Tu es amoureux, dis-tu. Je ne connais pas de mots pour exprimer mon amour. Eh bien, dans 15 jours, tu auras ta maîtresse. Mon frère, ah, foi de joyeuse, tu n'as pas désespéré, je pense. Non, car je n'ai jamais espéré. À quelle heure la vois-tu? À quelle heure je la vois? Mais sans doute. Mais je vous ai dit que je ne la voyais pas, mon frère. Jamais, jamais. Pas même à sa fenêtre. Pas même son ombre, vous dis-je. Ah, il faut que cela finisse. Voyons, a-t-elle un amant? Je n'ai jamais vu un homme entrer dans sa maison, excepté ce Rémy dont je vous ai parlé. Comment est la maison? 2 étages, petite porte sur 1 degré, terrasse au-dessus de la 2e fenêtre. Mais par cette terrasse ne peut-on entrer? Elle est isolée des autres maisons. Et en face, qu'y a-t-il? Une autre maison à peu près pareille, quoique plus élevée, ce me semble. Par qui est habitée cette maison? Par une espèce de bourgeois. De méchante ou de bonne humeur? De bonne humeur, car parfois je l'entends rire tout seul. Achète-lui sa maison. Mais qui vous dit qu'elle soit à vendre? Offres-en lui le double de ce qu'elle vaut. Et si la dame m'y voit, eh bien, mais elle disparaîtra encore, tandis qu'en dissimulant ma présence, j'espère qu'un jour ou l'autre, je la reverrai. Tu la reverras ce soir. Moi? Va te camper sous son balcon à 8 heures. J'y serai comme j'y suis chaque jour, mais sans plus d'espoir que les autres jours. À propos, l'adresse au juste. Entre la porte Bussy et l'hôtel Saint-Denis, presque au coin de la rue des Augustins, à 20 pas d'une grande hôtellerie ayant enseigne à l'épée du fier chevalier. Ah, très bien, à 8 heures ce soir. Mais que ferez-vous? Ah, tu le verras, tu l'entendras. En attendant, retourne chez toi, endosse tes plus beaux habits, prends tes plus riches joyaux, verse sur tes cheveux tes plus fines essences, et ce soir, tu entres dans la place. Dieu vous entende, mon frère. Henri, quand Dieu est sourd, le diable ne l'est pas. Je te quitte, ma maîtresse m'attend. Non, je veux dire, la maîtresse de monsieur de Mayenne. Par le pape, celle-là n'est point une bégueule. Mon frère, pardon, beau serment d'amour, je ne fais aucune comparaison entre ces deux dames, sois-en bien persuadé. Quoique, d'après ce que tu me dis, j'aime mieux la mienne, ou plutôt la nôtre. Mais elle m'attend, et je ne veux pas la faire attendre. Adieu, Henri, à ce soir. À ce soir, Anne. Les deux frères se serrèrent la main et se séparèrent. L'un, au bout de 200 pas, souleva hardiment et laissa retomber avec bruit le heurtoir d'une belle maison gothique, sise au parvis Notre-Dame. L'autre s'enfonça silencieusement dans une des rues tortueuses qui aboutissent au palais.